Bonjour à tous, rebonjour. On m'a demandé d'animer avec mes coéquipiers autour de cette table la thématique camp mobilité régionale et globale, à la fois à partir de leurs réflexions personnelles, et je suis ravie d'être dans ce rôle et de saluer mes collègues, mais aussi toute la salle. La thématique camp et mobilité régionales et globales. D'après la demande qui m'avait été faite par Michel Agier, centrant notre propos sur les formes de mobilité qui prennent place dans et hors des camps, qui sont à la fois appréhendées comme des lieux d'ancrage ou de passage pour une mobilité plus large, en se référant à la fois à la mondialisation et à la régionalisation des flux migratoires, dont je dirais un mot, et en insistant sur la dimension finalement transitoire de ces camps, même si ce sont des camps qui durent et qui deviennent des villes. Alors, je reviendrai sur à la fois ce qui a été dit par Saskia Sassen. On est dans un monde qui expulse au sens large toute une série de gens. On ne comprend plus très bien d'ailleurs pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette immense mobilité, avec tous les facteurs qui ont été présentés, mais aussi dans un monde qui, ce qui a été dit par Michel Lussault le premier jour, qui localise autant qu'il globalise. Et il est intéressant de voir finalement comment on peut comprendre ce paradoxe à la fois de mobilité et de sédentarisation, de mondialisation et de régionalisation. Et parmi les aspects peut-être les plus frappants de cette dynamique, je voulais juste revenir sur un élément que j'avais déjà appréhendé à travers mes travaux, le fait que on soit aujourd'hui dans un phénomène d'entrée en mobilité modeste du monde. 3,1% de la population mondiale sont des migrants internationaux, mais il y a aussi tous ces migrants internes qui sont d'ailleurs appréhendés pour certains dans les études qui figurent dans le livre. Donc 740 millions de migrants internes, autant de migrants internes en Chine que dans l'ensemble de la planète. Tout ça, ce sont des phénomènes qui sont sous nos yeux. Et en fait, un autre phénomène également très important, le fait que ces mobilités aujourd'hui sont autant du sud au sud que du sud au nord. Et puis après, on a d'autres mobilités du nord au sud et du nord au nord, voilà. Mais elles sont bien moindres que ces grands phénomènes de sud-nord et nord et sud-sud. Et ça, c'est un élément de réflexion, à mon avis, qui est au cœur de notre travail, puisqu'aujourd'hui, le sud bouge. Non seulement il bouge à l'échelle mondiale, mais il bouge à l'échelle régionale. Et pourquoi est-ce qu'il bouge à l'échelle régionale avec autant de dynamisme ? Parce que il est plus facile d'aller du sud au sud que du sud au nord. Et ça, je crois que c'est très très important. Les plus pauvres ne vont pas loin. Et comme beaucoup de gens de catégories nouvelles de migrants sont entrés dans cette migration, dans cette mobilité, eh bien, ils sont dans un espace régional. Aujourd'hui, on a les femmes, par exemple. On a 51% de femmes dans la migration mondiale. Dans la migration interne, on en a encore plus. Des mineurs non accompagnés, on en a beaucoup du sud au nord, mais on en a beaucoup du sud au sud, ce qu'on oublie. Pour les travailleurs aussi, c'est souvent plus facile d'aller du sud au sud que du sud au nord, parce qu'on a pas toujours besoin de visa, rarement même. Il est plus facile de traverser la frontière et on n'a pas de droit, mais on peut souvent travailler. Donc là aussi, ça favorise cette migration régionale qui se développe dans le monde, dont je dirais un mot tout à l'heure. Également, si on regarde les réfugiés, beaucoup de pays qui produisent des réfugiés sont aussi des pays qui accueillent beaucoup de réfugiés de façon informelle, sans respecter la Convention de Genève, qu'en général ils n'ont pas signé. Il ne faut pas oublier que 50 pays dans le monde n'ont pas signé la Convention de Genève. Donc tous ces nouveaux migrants qui se sont mis en route, si j'ose dire, parfois depuis seulement 20 ans, je pense aux gens qui sont sortis du mur de Berlin et quelques autres, et des gens du Sud aussi qui vont vers le Sud, tous ces nouveaux migrants ne vont pas très loin pour la plupart, parce que pour aller loin, il faut des ressources, il faut ce que certains appellent un capital mobilitaire, il faut parler une langue qui soit intelligible à l'extérieur, il faut des réseaux, il faut de l'argent, et donc ce phénomène de mondialisation des flux s'est accompagné d'un phénomène de régionalisation. Et je regardais avant de venir ici les chiffres par exemple du département de la population des Nations Unies pour toutes les régions du monde, les régions migratoires qui ne sont pas toujours des régions géographiques, par exemple l'Europe fonctionne avec la rive sud de la Méditerranée, mais dans l'ensemble les régions migratoires, Amérique du Nord d'un côté, Amérique du Sud de l'autre, Europe et rive sud de la Méditerranée, migration interafricaine, Russie et ses voisins, Turquie et ses voisins, Asie du Sud-Est et Océanie, toutes ces régions, partout dans le monde, sans aucune exception, ont aujourd'hui plus de migrants qui viennent de la même région que de gens qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et ça accompagne ce phénomène de migration sud-sud qui s'est beaucoup développé. Donc, on a aussi aujourd'hui un intense phénomène de régionalisation des flux migratoires, parfois plus ou moins accompagné par des systèmes de migration régionale, mais qui fonctionnent souvent très mal. Il y en a même 22 dans le monde aujourd'hui, donc ça n'est pas négligeable. Mais ces systèmes n'accompagnent pas toujours d'ailleurs la réelle mobilité des personnes. Parfois, ils ont été créés pour des raisons politiques qui n'ont rien à voir avec la gestion des flux migratoires. Donc un phénomène massif de régionalisation, un phénomène aussi qui dessine des... je l'ai déjà dit ailleurs, mais des espaces géographiques, des systèmes migratoires institutionnels, des régimes qui sont dans le flou des pratiques administratives en la matière, et également qui sont favorisés par tous les phénomènes de proximité, proximité des médias, proximité des transports, proximité des liens transnationaux, proximité des zones de réserve de main-d'œuvre et des zones d'accueil de main-d'œuvre, donc, et également proximité des zones de protection temporaire plus ou moins sur place avec les régimes de l'asile, et aussi proximité des possibilité pour les déplacés environnementaux d'être plutôt accueillis pas très loin de chez eux, dans leur pays, qu'à l'autre bout du monde. Donc ce phénomène se développe avec, paradoxalement, la mondialisation. Et pour revenir au texte que j'ai lu donc dans le livre, ce qui me frappe particulièrement, c'est finalement le côté à la fois nouveau et pas si nouveau des camps. Il ne faut pas oublier que dans la période de grande industrialisation des années 60-70, on avait beaucoup moins de camps dans le monde, mais on en avait quand même pas mal au nord. La question migratoire était accompagnée de la question des bidonvilles, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu des quantités de travaux qui ont été faits là-dessus, Colette Pétonnet, Monique Hervaux, Marie-Anne Charras, etc., et beaucoup d'autres qui ont travaillé là-dessus, mais aussi toute une série de travaux plutôt de sociologues urbains sur les quartiers centraux des villes qui se bidonvillisaient, ce qu'on a beaucoup oublié aujourd'hui avec la rénovation urbaine. Donc c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, c'est un phénomène qui a en commun dans toutes les études de cas que j'ai lues, qui ont une tentative d'organisation sociale, bien que ce soit des personnes qu'on ne sache pas toujours nommer, qui sont dans ces lieux. Et aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que tous ces phénomènes d'encampement caractérisent des formes de migrance ou de mobilité à des temps différents de leur parcours. On a des camps qui concernent l'arrivée plutôt, on en a qui concernent plutôt le transit, c'est le cas par exemple au Maroc, on en a qui concernent des formes d'installation, comme par exemple au Qatar, ça accompagne la migration de travail, comme nos bidonvilles des années 60 et nos cités de transit, d'ailleurs comme ça s'appelait. On a également des formes d'encampement qui concernent le rapatriement, et puis on les garde parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on va en faire, notamment pour des demandeurs d'asile qu'on ne peut pas expulser parce que leur pays est en guerre, et puis des gens qu'on va expulser et qu'on maintient avant l'expulsion. Donc toutes ces formes d'encampement caractérisent des formes de migration à des moments différents de leur parcours migratoire, mais ces moments ont été, et ces formes d'installation, soit sont créées par l'État, soit sont créées par les migrants eux-mêmes, comme solution à une période indéterminée de leur parcours, comme on le voit par exemple sur les chapitres, les travaux qui ont été consacrés à Calais et à quelques autres exemples. Donc précarité, destruction, dimension provisoire du séjour, longue et courte distance des lieux parcourus par ces personnes qui vivent dans ces camps, la différence des statuts aussi. Là, on voit tout à fait le phénomène d'expulsion au sens large de gens qui sont produits par la globalisation, si j'ose dire, et qui sont dans des statuts très, très flous. On a ce qu'on appelle des flux mixtes. Certains sont des travailleurs, par exemple, comme les exemples qui ont été faits dans le Golfe. D'autres sont des demandeurs d'asile. D'autres sont des nomades ou qui sont redevenus nomades, dans le cas des Roms. D'autres sont des mineurs non accompagnés. Donc, on a des gens qui appartiennent aussi à plusieurs statuts ou à pas de statut du tout et qu'on ne sait pas très bien nommer. Donc, ça, c'est une des caractéristiques aussi de ces phénomènes de camps qui peuvent s'appeler différemment centres de rétention, camps et jungles, etc. Une dernière caractéristique, c'est la relation de ces camps avec la ville. C'est-à-dire, c'est un peu une sorte de négation, une forme décalée de la ville, comme dit Michel Agier dans la partie introductive, mais c'est aussi le résultat d'une forme de mondialisation, c'est-à-dire de cette expulsion dans la mobilité de toute une série de gens qui sont exclus du monde agricole, qui sont exclus du monde urbain, qui se financiarisent, si j'ose dire, et puis aussi qui sont exclus, et ça a été dit tout à l'heure par Saskia, par des politiques de développement. Il ne faut pas oublier que beaucoup de gens sont de façon massive dans le monde exclus par des politiques de développement qui sont voulues par exemple le Fonds monétaire international ou par la Banque mondiale ou par d'autres institutions. Si on délocalise, comme on dit, telle production massive de produits agricoles, par exemple dans telle région du monde, ça va mettre en compétition et parfois, disons, en faillite d'autres régions qui fabriquaient ce produit. Je prends l'exemple du café, par exemple, il y a un travail qui a été fait là-dessus. Eh bien, les anciens producteurs de café qui ne sont plus compétitifs se mettent en mobilité, en migration. Donc des politiques de développement aussi conduisent à des formes d'expulsion de leur région de production du monde, même si ça ne correspondait pas à une production traditionnelle. Ça a été souvent importé dans une autre génération de politiques de développement. Et là aussi, on arrive à des formes d'entrée en mobilité qui conduisent à des formes d'encampement divers. Donc je terminerai là-dessus. Je dirais simplement sur les caractéristiques des différentes études que j'ai lues, notamment dans la quatrième partie de l'ouvrage, ce qui caractérise toutes ces personnes, malgré leur très grande diversité et la richesse des travaux qui ont été faits dessus, c'est à la fois l'absence de citoyenneté et l'absence de liberté. Tous, ils sont dans des situations différentes, mais tous sont des gens qui sont considérés d'une façon ou d'une autre comme des non-citoyens. Et ça, c'est des gens qu'on a du mal à nommer, aussi des gens qui sont dans une situation non seulement précaire économiquement, mais précaire au regard de leur liberté. Ils ne peuvent plus, très difficilement, sortir du camp dans lequel ils sont en termes de statut, en termes de situation économique, et souvent leur seule mobilité, soit elle va être impulsée par les pouvoirs publics qui vont les expulser ou les reconduire chez eux, les rapatrier, etc. Soit pour eux, il va falloir, subir cette situation, s'ils sont par exemple saisonniers ou précaires, comme les gens qui sont analysés pour, par exemple, le Qatar. Et là aussi, il y a l'absence de liberté. Donc ça, je crois que c'est un aspect qui caractérise un petit peu l'ensemble des population étudiée dans ces différents chapitres, mais qui caractérise aussi cette mise en expulsion du monde, comme il va, si j'ose dire, c'est-à-dire en fait toute une série de logiques qui conduisent à ces formes de population en situation de lévitation à l'échelle mondiale, donc qui se régionalisent parce que c'est moins cher, mais aussi qui sont le fruit de la mondialisation.
Alors peut-être qu'on va se passer la parole des uns des
autres. Est-ce que je dois vous poser des questions ou alors est-ce que je dois... Quel rôle je dois avoir en la matière? Alors là, on entre dans quelque chose de peut-être plus difficile. Alors peut-être tout d'abord à mon voisin de droite, Kamel Doraï, donc à propos de notamment des Palestiniens, mais aussi des populations de ces régions. Moi, j'avais une question essentielle, c'était sur finalement le précaire qui dure et qui finalement aboutit. Alors ils ont un statut pour certains qui est un statut assez comparable à celui de la Convention de Genève, l'UNRWA, et puis en même temps ils sont dans une dynamique qui est très extrêmement diversifiée. Ça frappe aussi parce que en fait pour certains ça a pu conduire à une forme de libéralisation vis-à-vis d'un contexte local dans lequel ils étaient enracinés, et parfois même paradoxalement de promotion sociale, et dans d'autres cas, au contraire, c'est l'encampement pur et simple. Alors comment est-ce qu'on peut résoudre finalement ce paradoxe de pour certains, plus de liberté, on sort du carcan, on n'est plus marqué par la société locale qu'on a quittée, et pour d'autres, au contraire, cette dynamique d'enfermement. Est-ce que ce sont les mêmes gens ou est-ce que ce sont des gens différents ?
Merci. Alors, je crois que parmi les éléments qu'on peut apporter à la réflexion, et ça fait écho avec un certain nombre de débats qu'on avait eu, qui ont eu lieu hier, c'est de reprendre en fait la question des camps dans la révolution historique. Et ça, je crois que c'est quelque chose de tout à fait fondamental parce que ça porte en soi le paradoxe de l'extrême précarité d'un certain nombre de populations palestiniennes dont le statut juridique est en fait tout de même relativement précaire. Hein, parce que ce qui différencie l'UNRWA du HCR, c'est que l'UNRWA a mandat d'assistance mais n'a pas mandat de protection. Donc en termes juridiques, c'est quand même extrêmement différent parce que ça vulnérabilise les populations palestiniennes qui du coup tombent sous le coup des différentes législations très différenciées des pays et ça varie de formes de ségrégation et de discrimination très fortes comme ce qu'a décrit hier Sari au Liban, à des formes d'intégration qui peuvent apparaître à certains moments historiques comme étant plus protectrices comme en Syrie ou en Jordanie, mais qui sont relativement réversibles. Hein, le cas syrien le montre de façon extrêmement visible aujourd'hui. Alors, sur la question spécifique des différences entre les différentes catégories et statuts de Palestiniens, outre cette très grande diversité en fonction des pays d'accueil, les trajectoires en fait des populations dans les camps et hors les camps ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que socialement, les camps ont été des lieux de relégation des populations qui étaient les plus vulnérables ou les plus modestes à l'arrivée dans les pays d'accueil, donc Liban, Syrie, Jordanie, Cisjordanie, Gaza. Et on trouve donc des trajectoires de personnes hors camp qui ont eu pour certains des possibilités d'acquérir les nationalités de leur pays d'accueil, hein, bon, comme ça a été largement le cas en Jordanie, mais de façon moins connue au Liban. Un certain nombre de personnes ont acquis la nationalité libanaise, même si ça demeure une minorité, et donc ont été sur des trajectoires qu'on peut qualifier de trajectoires intégratrices dans un collectif national, et avec une relégation extrêmement forte des populations dans les camps. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que si les camps formels sont des lieux de relégation et sont stigmatisés par des formes d'exception par rapport à la loi générale au Liban, ce qui caractérise aussi les Palestiniens, c'est la relégation dans des espaces qui sont des camps informels, hein, ce qui a peut-être été un peu moins traité jusqu'à présent, donc des camps qui ne sont pas reconnus ni par l'UNRWA, ni par le HCR, ni par les États d'accueil comme étant des camps, et qui demeurent des lieux du coup d'extrême précarité. Et là, en fait, on a dans ces espaces-là, et le Liban, je crois, en est vraiment le lieu le plus symptomatique, mais également certains espaces en Jordanie, ce sont des lieux de relégation des populations qui n'ont même pas accès aux camps. Et quand on prend le cas plus spécifique du Liban, on a des populations qui sont d'origine bédouine, du nord de la Galilée, et qui, eux, n'ont même pas eu accès aux camps. Et donc, ils sont relégués au sein de la société palestinienne, et cette relégation, elle se formalise également dans la société palestinienne de l'exil, et formellement, dans les camps, ils sont ailleurs, ils sont à côté, et ils sont dans des espaces de sur-relégation, puisqu'ils n'ont même pas accès aux services de l'UNRWA. Donc il n'y a pas de protection juridique, mais il n'y a même pas, ou de façon extrêmement limitée, des services. Donc on a comme ça des enchevêtrements ou un système où en fait les formes de relégation viennent se superposer les unes aux autres. À la stigmatisation légale se rajoute une stigmatisation sociale et une relégation spatiale dans des espaces extrêmement forts. Et puis, juste pour dire, au-delà de ce livre, depuis quelques temps, je suis donc en Jordanie, et ce qu'on voit exactement à l'œuvre pour les réfugiés syriens en Jordanie, c'est relativement similaire. C'est-à-dire qu'on a des formes de relégation très très fortes dans les camps, avec une gestion, du camp de transit de la frontière, au camp de transit au nord de la Jordanie, au camp d'installation également un peu plus à l'intérieur des terres, toute une forme de réseau de camps qui se constitue depuis que la Jordanie a décidé de plus ou moins fermer, ou en tout cas de trier ou de sélectionner de façon extrêmement forte les populations syriennes qu'elle compte accueillir. Donc avec une relégation habituelle très très forte, qui est affichée comme une volonté jordanienne de ne pas accepter de réfugiés palestiniens de Syrie qui eux n'ont pas accès ou non très très limités ont eu accès au territoire jordanien, donc ils sont appréhendés dans ces camps de transit pour ceux qui arrivent à passer et puis réexpulsés pour la majeure partie vers la Syrie. Mais du coup, pour limiter ces formes de mobilité, avec des systèmes de frontaliers qui étaient très ouverts pendant très longtemps en Jordanie, puisque plusieurs centaines de milliers, certainement 600-700 000 réfugiés syriens ont été accueillis en Jordanie jusqu'aujourd'hui, mais on a du coup tout un système de camps qui se crée avant le camp d'installation pour trier, maintenir les populations, les sélectionner et procéder soit à l'intégration sur le territoire jordanien, soit à la réexpulsion. Et donc on a, de façon extrêmement intéressante, pour finir là-dessus, un dispositif de camp qui redessine la frontière, puisqu'en fait, sur l'ouest, la partie ouest jordano de la frontière entre la Jordanie et la Syrie, c'est là où la majeure partie des gens résident, c'est la région autour de Dera qui a été le premier lieu de soulèvement de la population syrienne. Les gens finalement circulaient, il y a des relations tribales très anciennes, des relations urbaines très anciennes, donc les gens circulaient entre ces deux morceaux de la frontière, et la fermeture de cette partie ouest de la frontière, avec création de camps à l'est, proche de la frontière irakienne, en plein désert, pourrait en fait déporter les gens vers ces espaces de sélection. Et donc on a vraiment là un système de camps qui vise à reconfigurer la frontière, à la rendre imperméable et à rendre du coup le parcours beaucoup plus complexe et beaucoup plus long pour les populations réfugiées. Donc on a cette articulation très forte entre construction frontalière, contrôle des flux migratoires et mise en place de dispositifs de camps, de transit et d'accueil pour limiter les formes en fait de mobilité et du coup à réussir à sédentariser pour le moment contrôler ces personnes.
Merci beaucoup. Alors on va passer, effectivement, ça c'est une configuration, si j'ose dire, à une autre, et je poserai la question à Pierre Sanslivre, notamment en lisant le chapitre sur les différentes jungles, notamment celle de Calais, qu'on connaît bien en France. Comment se fait-il que des gens, par exemple, qui viennent d'Afghanistan, choisissent des parcours aussi longs? Est-ce qu'il y en a d'autres qui choisissent des formes de mobilité régionale, si j'ose dire, compte tenu des contextes d'où ils viennent? Nous, on voit les gens qui ont fait des voyages au long cours, mais est-ce qu'il y a d'autres formes d'encampement, mais aussi de mobilité proche, et notamment pour cette région autour de l'Afghanistan? Je rappelle que l'Afghanistan est le pays qui a produit le plus de personnes déplacées au monde depuis le début de l'invasion soviétique. Depuis 1978, 6 millions de personnes ont quitté l'Afghanistan. Certains sont revenus, d'autres repartis. C'est le record mondial.
Oui, merci. Oui, ma femme et moi, nous avons étudié particulièrement les camps de l'Afghan, de la frontière du nord-ouest pakistanaise, qui représentait une masse considérable de réfugiés. À l'époque, c'était le record. C'était le nombre de réfugiés afghans au Pakistan représentait la masse de réfugiés la plus considérable qu'il existe au monde d'un pays dans un autre pays. Maintenant, les choses, évidemment, ont évolué. Il faut se replacer dans un contexte de la guerre froide. La guerre froide, c'était un gouvernement communiste, celui de Kaboul, qui fait appel à des troupes soviétiques pour conforter sa présence et son existence aux dépens d'une bonne partie de la population afghane. Donc on avait affaire, lorsque nous avons effectué nos premières enquêtes dans les années 86, à un camp ou à des camps parmi un grand nombre de camps au Pakistan qui comportaient, je crois à l'époque, 345 camps, et pour une masse qui allait atteindre bientôt 3 200 000 personnes, donc ce qui était tout à fait considérable. J'aimerais dire un mot de ce contexte de la guerre froide. Je crois qu'il est important pour expliquer comment fonctionnaient les camps afghans. En somme, ces camps avaient une sorte, aux yeux de l'Occident, aux yeux du HCR, une sorte d'exemplarité. Les camps manifestaient la perversité profonde du système communiste afghan et au-delà, manifestaient la lutte entre les peuples libres, entre guillemets, et les troupes soviétiques qui étaient présentées comme l'agresseur en Afghanistan. Donc il est clair que la présence même des réfugiés afghans au Pakistan était la preuve vivante d'un épisode de grande importance de la guerre froide, et que les Afghans au Pakistan étaient présentés comme des victimes qu'il fallait soutenir et qui, en quelque sorte, étaient les victimes directes d'une confrontation dont l'Occident faisait partie. La disposition des camps était assez particulière. Les autorités pakistanaises, en collaboration avec le HCR, ont regroupé les camps pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, dans la frontière du nord-est du Pakistan, maintenant qui s'appelle la frontière du Pashtunwa. Ces camps étaient ainsi dans une proximité géographique avec l'Afghanistan, mais aussi une proximité culturelle pour beaucoup, puisque les 80% des réfugiés étaient des Pashtuns de langue et d'ethnie, qui étaient réfugiés en territoire Pashtun pakistanais, donc même culture très proche, mais état différent. De même, les camps au Pakistan, les camps n'ont jamais été des camps fermés. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun obstacle, en théorie, de quitter le camp, d'aller d'un camp à l'autre, et beaucoup de réfugiés, bien sûr, quittaient même quotidiennement le camp pour faire des petites tâches, pour être recrutés par des contracteurs, des travaux de route et de construction et autres, ou d'autres petits boulots. Par ailleurs, la frontière avec l'Afghanistan n'était pas non plus hermétiquement fermée. Donc on avait un phénomène pendant tout le conflit entre les Moudjahidines et le régime de Kaboul, de va-et-vient considérable et même saisonnier. Lorsqu'on parlait avec les réfugiés, ils nous expliquaient que l'été était la bonne saison pour la guérilla, donc ils allaient faire la guerre l'été et revenaient l'automne s'abriter dans les camps de réfugiés. Même les quelques lycées établis par les partis de la résistance afghane et financés par exemple les Saoudiens, l'excursion d'été et d'automne des lycéens, c'était d'aller en Afghanistan pour voir comment ça se passait sur les différents fronts. En fait, il arrivait aussi beaucoup que les réfugiés rentraient discrètement à l'époque des récoltes pour surveiller la façon dont les gens restaient au pays, leurs parents restaient au pays, s'occupaient de leurs terres, s'occupaient des moissons, s'occupaient des récoltes des fruitiers. Donc il y avait en somme une perméabilité très claire, très nette de la frontière. Et les Afghans, beaucoup d'Afghans, pas tous, se risquaient parfois non seulement à sortir des camps pour aller visiter les leurs dans d'autres camps, mais à retourner dans leur pays. Il est bien clair que ce n'était pas le cas de tous les réfugiés, et que les réfugiés parmi les réfugiés étaient ceux qui, dont les villages avaient été détruits, qui n'avaient plus de parents au pays, ou qui n'avaient pas les ressources pour effectuer les déplacements nécessaires. Par exemple, on peut penser aussi à certaines parties de la population, comme les personnes âgées ou les veuves, qui, elles, n'avaient guère de recours et de secours que les rations distribuées par les Nations Unies, en particulier la FAO et le HCR. Les Afghans des camps étaient en fait organisés de façon à réussir à rétablir une sorte d'autonomie culturelle et même politique à l'intérieur des camps. Lorsque nous avons commencé nos études avec ma femme, nous étions partis des images qui étaient répandues par le HCR et par les autorités pakistanaises qui expliquaient la situation des réfugiés afghans au Pakistan à partir d'une série d'absences et de privations, déstructuration, déracinement, privation de leurs droits et de leur accès à la terre. Et en fait, cette description n'était pas entièrement fausse. Mais en particulier, les réfugiés afghans au Pakistan n'avaient pas et n'ont toujours pas le droit de posséder de la terre, de posséder des immeubles, d'avoir des licences d'exportation et autres possibilités économiques. Mais ce qui nous a frappé très vite, c'est qu'une perspective purement victimaire était erronée et que les réfugiés étaient à même de rétablir une vie sociale, économique, de repenser leur sentiment d'appartenance et leur identité. Si bien qu'en un sens, la mobilité hors des camps, à l'intérieur des camps, était en quelque sorte réglée en partie par les Afghans eux-mêmes, qui organisaient leurs propres entreprises de transport interne, par exemple, ou qui organisaient eux-mêmes une surveillance intérieure qui limitait le mouvement de parties dominées de la population, comme les femmes en particulier. Après la chute, et je finirai par là, après la chute de l'Empire soviétique et la chute du gouvernement communiste de Kaboul, ce qui s'est passé, c'est que le camp s'est dégradé. Les réfugiés n'étaient plus des victimes exemplaires, mais des gens rapatriés, plus ou moins de force. Ces 10 dernières années, il y a eu 7 ou 8 tentatives de démolir le camp. Les autorités pakistanaises en ont passé des parties au bulldozer. Mais il y a une résistance étonnante des habitants des camps, qui n'étaient plus nécessairement les mêmes. Là, il faudrait avoir plus de temps pour parler des différentes millésimes de réfugiés, en quelque sorte, qui n'étaient plus nécessairement les mêmes, mais pour qui le camp était devenu une sorte d'abri principal ou secondaire. Il était devenu aussi une étape pour des migrations ultérieures, par exemple vers Karachi et les pays du Golfe, ou vers d'autres destinations. Voilà.
Merci beaucoup. Je vais justement, ça m'inspire une transition, tout ce que vous nous avez dit, sur ces camps qui sont à la fois des lieux d'ancrage, mais aussi des lieux éphémères, à propos des Roms. Je sais que vous travaillez Martin Oliveira sur les Roms. Dans le chapitre que j'ai lu sur le Hanul de Saint-Denis, donc il y a toute une analyse du campement illicite des Roms. Donc c'est un camp qui est créé de façon spontanée par les personnes, à la différence de beaucoup d'autres camps créés plus ou moins par l'État ou par des structures diverses de type humanitaire. Et en même temps, c'est un camp qui est destiné, qui est menacé en permanence par les forces de police, qui est à la fois, disons, un point d'ancrage, mais un point où d'où on sort, comme a dit tout à l'heure Pierre Sanslivre, pour travailler, pour faire toutes ces, tout ce qu'on peut faire à l'extérieur, et puis qui à un moment ou un autre est soit abandonné parce qu'il y a une pression forte de la part des autorités de police, soit parce qu'on va de soi-même dans un autre endroit. Donc là aussi, c'est une autre forme de camp. C'est le camp, disons, glissant, si j'ose dire, le camp qui n'est pas destiné véritablement à durer, très souvent installé dans un lieu de forte désindustrialisation comme ancrage géographique.
Oui, vous avez bien lu, merci. effectivement, c'est, je remercie déjà Michel de m'avoir proposé de participer au livre, puisque un certain nombre de personnes pourraient penser que ce genre de bidonville ou de campement illicite, comme on dit maintenant, n'aurait pas place dans un livre comme celui-ci, pour la bonne raison que, pour l'opinion publique, c'est un choix de vie. Le fait de vivre dans ce genre d'habitat n'est pas du tout le fruit de traumatismes géographiques ou socio-économiques, stratégiques, etc. Et organisés par les autorités. Non, là, on a affaire, effectivement, d'une certaine manière, mais d'une certaine manière seulement, à de l'habitat autoconstruit, comme on le voit bien sur la photo. Et ce qui tranche assez avec les deux photos précédentes, là, qui, moi, me sont passées devant les yeux rapidement, et les deux photos étaient quasiment identiques, pourtant à un certain nombre d'années d'écart, si je ne m'abuse, et c'était esthétiquement très exactement la même chose. Là, on a affaire, dans la matérialité même, à quelque chose d'autre, de l'habitat autoconstruit, dans des interstices urbains, qui sont effectivement les places libres qui restent dans les trous de la ville suite à la désindustrialisation au cours des 20-30 dernières années passées. Ce que essaye de montrer le chapitre, c'est plusieurs choses. D'abord que ces gens, ces familles qui habitent dans ces campements, camps, bidonvilles, terrains, etc. La dénomination n'est pas hasardeuse, mais on ne va pas s'attarder là-dessus, sont d'une certaine manière des migrants tout à fait bêtes, au sens habituel, dans une situation très très banale, quand bien même on essaye, là aussi, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, de les ériger, non pas en travailleurs pauvres vivant en bidonville, comme beaucoup d'autres gens en France ou ailleurs depuis très longtemps, mais en nomades ethniques qui reproduisent un mode de vie par choix, etc. Donc voilà, il y a, dès qu'on fait un petit peu sérieusement une étude de cas, et qu'on les multiplie, on se rend compte que le profil migratoire des familles dites roms, à tort ou à raison, c'est pas là non plus le sujet, est tout à fait banal, et qu'il est impossible de penser la situation de ces familles-là, les choix du départ, comme les modalités d'installation contrainte dans des bidonvilles, même s'ils sont autoconstruits. Il est impossible de penser cette migration-là et leur présence sans la resituer dans un contexte beaucoup plus global que celui, effectivement, de la reprise de migration intra-européenne depuis au moins le début des années 90. Et pour juste donner quelques chiffres tout bêtes, on estime aujourd'hui, on n'a pas de chiffres précis, mais que le taux d'émigration en Roumanie est entre 10 et 20% de la population nationale, c'est-à-dire entre 2 et 4 millions de Roumains, Roms ou pas Roms, peu importe, qui au cours des 20 dernières années ont fait le choix du départ. Donc des chiffres imprécis, puisque les gens ont des statuts différents dans les pays d'accueil, hein, ils ne sont pas toujours résidents ou déclarés. Donc 2 à 4 millions, c'est tout à fait considérable quand même, sur un pays de 20 millions d'habitants, entre 10 et 20%. Si on rajoute les gens qui ont eu une expérience migratoire dans les 20 dernières années, j'imagine que sur la classe active de la population roumaine, on arriverait facilement au double en termes de proportion. Donc c'est un mouvement global dans lequel s'inscrit totalement la migration de ces familles dites roms et qu'on voit en bidonville, mais qui ne sont qu'une infime partie de ce phénomène général, qui lui-même est lié à un autre phénomène général aussi, qui rejoint en partie la conférence de Saskia Sassen tout à l'heure, qui est celui de la place de la mise en ordre de l'ordre libéral ou néolibéral, le consensus de Washington, etc., en Europe orientale, en Europe centrale, et puis aussi également, depuis une quinzaine d'années, en Europe occidentale. Donc ce sont, et c'est là la vertu, je pense, non seulement méthodologique, heuristique, mais fondamentalement politique, au sens noble du terme du livre auquel on a pu participer, c'est qu'en multipliant les études de cas, on est obligé, et en les réunissant selon une approche qui est productive, sous le nom de camp, mais qui concerne beaucoup d'autres choses, qui est la fabrique de la ville aussi, etc. etc. Cette entreprise oblige et amène à maintenir ces deux bouts fondamentaux qui sont, je pense, enfin personnellement, en tant qu'anthropologue, les vertus fondamentales de la discipline et au-delà des sciences humaines, c'est de maintenir le bout d'une approche globale nécessaire, puisqu'on ne peut pas faire semblant, ces gens-là ne sont pas juste des choses reproduites d'elles-mêmes qui tombent du ciel ou qui sortent de terre. Donc, une approche globale qui est aussi historique, mais qui est aussi socio-économique, urbaine dans notre cas, et en même temps une approche locale, micro-locale, qui est absolument incontournable, sinon on ne comprend pas, au sens sociologique du terme, ce qui se passe. C'est-à-dire que si on ne prend pas en compte, non seulement au-delà du cadre global, structurel, régional, voire international ou mondial aujourd'hui, les contraintes qui pèsent sur les gens, mais si on ne prend pas non plus en compte d'où ces gens, en tant qu'individus et personnes, viennent, qu'est-ce qui constitue leur réseau social, leur sociabilité, leur volonté personnelle, familiale, collective, etc. Si ça, on l'oublie aussi, on ne comprend rien du tout à leur réalité sociale, à leur réalité même quotidienne, et à ce qui fait d'eux des individus ou des personnes. Bref, tout ça pour dire, où voulais-je en venir au tout début de cette longue phrase, je voulais en venir que oui, et je vais m'arrêter là parce que je crois qu'on est un petit peu en retard, cette approche-là qui tient les deux bouts et qui ne cherche pas nécessairement à donner la prééminence d'un bout sur l'autre, même si dans des occasions particulières, pour des raisons particulières, dans des cadres politiques ou comparatifs, on peut faire des choix et insister plus sur l'un que sur l'autre. Cette approche-là, et précisément, c'est, quand je dis on n'y comprend rien si on ne la tient pas ensemble, on ne comprend rien à ce que les gens font, et on ne comprend donc pas non plus, effectivement, comment ils se donnent ce fameux droit à la ville dont on parlait, comment eux-mêmes participent de la fabrication de la ville, même si personne n'en veut, mais que de fait, et je finirai là-dessus, dans le cas de ces familles dites roms, du Hanoul ou de tout un tas d'autres fameux campements illicites en France, on se rend compte qu'au-delà de la difficulté de l'habitat précaire, de la complexité, etc., ce genre de camp, de campement, de bidonville est avant tout et surtout pour ces gens une manière de prendre pied, de maintenir des allers-retours ou pas, de circuler même dans d'autres pays quand d'autres familles sont installées selon les réseaux migratoires dans d'autres pays européens. Bref, de continuer à fabriquer de la société, à fabriquer localement de la ville, et en tout cas que ce sont des lieux souvent, sans les idéaliser évidemment, hein, mais souvent plus propices à ce genre de dynamique et développement de cette dynamique-là que les fameux campements qui, pour le coup, sont totalement dirigés par les institutions et que, dans le cas des Roms, on appelle des villages d'insertion, sur lesquels il y a eu des travaux, notamment d'Olivier Legros, auquel je vous renvoie, bref, et qui, esthétiquement, semblent plus jolis, ressemblent plus à une forme moderne, urbaine, occidentale, de camp, du HCR, mais dans les interstices urbains, et là, c'est plus des tentes blanches, ce sont des algécos blancs, avec des jolis gravillons, mais de fait, ce sont des espaces qui, pour le coup, dans bien des cas, ne permettent pas aux familles qui sont prises en charge, qui sont censément désignées comme bénéficiaires, ne leur permet pas de continuer ce fameux travail d'auto-insertion dont les migrants, contraints ou volontaires, partout sur Terre, sont finalement d'abord et avant tout les premiers acteurs. Je pense que ça aussi, ça s'est montré dans ce livre comme dans bien d'autres travaux.
Merci beaucoup. Donc je laisserai le mot de la fin à Pedro Neto qui va... peut-être poursuivre notre réflexion et l'ouvrir sur les éventuelles questions de la salle, sur cette dimension lieu d'ancrage, lieu de passage, difficulté à caractériser les populations. Je vous laisse développer vous-même votre propre thématique.
Merci. Je vous prie de m'excuser si tout à coup je change à l'anglais, mais c'est ma précaire situation aujourd'hui. Avant tout, je crois, après avoir écouté toute cette présentation au cours de ce jour, il m'a aussi fait penser sur la situation et sur le va-et-vient qu'on peut constater dans la région que fait frontière avec l'Angola, que fait frontière avec la Zambie et le Congo. C'est la région du Haut Zambèze et du Bas Kasaï. Et historiquement, peut-être, il faut mettre dans une perspective historique, parce que cette région, historiquement, est un lieu d'exil. Quand les Portugais arrivent à les côtes angolaises, et le commerce des esclaves commence, plusieurs groupes trouvent leur exil dans les régions est. De même façon, quand les Belges et après les Anglais entrent dans les territoires de la Zambie et du Congo belge, cette situation, on vérifie à nouveau cette situation. Et au cours du temps, la région de la frontière aujourd'hui du Congo, de l'Angola et de Zambie, une région de frontière tripartite, est devenue un lieu de refuge. Pas seulement pour le commerce des esclaves, mais aussi par l'expansion territoriale coloniale, après les opportunités de travail dans le Copper Belt de Zambie, aussi dans la région du Katanga, du Congo, etc. Et la violence, les impôts ont fait ce va-et-vient la norme dans cette région. Après les guerres, pas seulement en Angola, mais surtout le cas angolais est très pertinent parce que c'est à l'origine de la création du camp de Meeba, mais aussi d'autres camps le long de la frontière, le camp de Mayo-Kwayukwa, Nangweshi et d'autres qui ne sont pas représentés aujourd'hui ici. Et en fait, pas seulement cette région, parce que toute la Zambie a été un territoire de refuge pendant les guerres au Mozambique, le Congo, le Zimbabwe, pas seulement les guerres, mais aussi des conflits, du Burundi, du Rwanda. Et ça me fait penser aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les réfugiés et l'autochtone de cette région, en tant que catégorie, je ne sais pas. Aujourd'hui, en fait, je parle un peu sur Meeba aujourd'hui, il est très difficile de cristalliser cette région parce qu'il y a aussi une région minière. Et dans l'intervalle, le Copper Belt s'est répandu jusqu'à la frontière, jusqu'à Mwinilunga, presque. Et jusqu'à côté de Meeba, j'ai écrit dans le post-scriptum, après une courte période de travail de terrain en janvier de cette année, et la mine de Lumwana a conquéré la zone A du camp. Il faut dire aussi que les réfugiés angolais qui n'ont voulu pas être rapatriés et ont réussi à avoir l'intégration locale, se sont maintenant divisés par groupes et ils sont transférés à la zone H du camp, qui est presque brousse, une zone presque brousse. Et les réfugiés Hutus du Burundi, du Rwanda, ont presque réussi aussi, ils sont dans un limbo légal, ils ne reconnaissent pas qu'ils sont du Rwanda ou du Burundi, mais ils ne reconnaissent pas aussi qu'ils sont des réfugiés. Alors, aucune solution est possible dans ce cas, parce qu'ils se refusent à signer quelque sorte de document. Il reste, parmi d'autres groupes moins représentatifs, reste le cas congolais, et que maintenant ils sont obligés à être séparés de l'autre groupe. En même temps, il est très intéressant de constater un nouvel phénomène, que c'est pas seulement les camps des expats qui travaillent pour la compagnie minière du Canada, surtout des provenant des pays occidentaux, d'Europe, des États-Unis, du Canada, mais aussi une nouvelle section dans le camp qui ouvrira, je ne sais pas quand, mais pour abriter des travailleurs provenant de Chine, des Philippines, du Vietnam et d'autres pays en Afrique. Alors, en même temps qu'on regarde une sorte d'ouverture dans ce camp-là, on trouve en même temps des nouvelles enfermements. Je ne sais pas comment, peut-être. Michel Agier a parlé de l'apartheid généralisé. Et je ne veux pas changer le cours de cette discussion, mais on peut parler aussi de gated communities, des complexes que Saskia Sassen a parlé jusqu'avant. Et je me rappelle un film, Code 46, à propos d'un futur dystopique, et que le monde est divisé entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Et c'est la cité et c'est le désert. Et dans, dans la création des camps et dans la création des structures complexes de sécurité, de gated communities, de agencies for security agencies, on regarde et la disparition de la classe moyenne. Est-ce qu'on est d'avant ce processus de, en fait, c'est comme the self-fulfilling prophecy. Est-ce qu'on est en train d'arriver à ce... Oui, je passe.
Merci beaucoup. Écoutez, merci pour vos réactions. On me demande de finir à 11h50. On me dit qu'il n'y aura pas de questions, mais en revanche, je dis qu'il peut y avoir des questions pendant la pause de 10 minutes qui va vous être accordée. Et donc, nous allons reprendre nos travaux, je pense, à midi. Donc, les questions pendant la pause.